Écoutez le monde changer.
Et si on partait sur Europe 1 tous les soirs entre 16h et 18h, un grand voyage, que vous soyez au bureau, dans votre canapé, sur une plage, il suffit de se laisser aller. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Ah, aujourd'hui, une destination immense, gigantesque. C'est le plus grand pays du monde. Il est souvent aussi, à nos yeux, un des plus mystérieux, parce que la Russie, on connaît quoi ? On connaît Moscou, comme ça, de réputation, la Place Rouge, Saint-Pétersbourg. Et plus loin, qu'est-ce qu'il y a dans les profondeurs de la Sibérie ? On va découvrir tout ça ensemble après le flash de 17h. Et puis maintenant, juste avant, une destination qui attire chez nous des visiteurs du monde entier, la Côte d'Azur, destination mythique, des stars par centaines, comme s'il en pleuvait, mais aussi des vrais habitants qui sont les Azuréens. Je vais appeler au secours Nathalie Elal.
Azuréens ?
Les Azuréens.
Le bleu azur.
Tout ça. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Je suis accompagné des meilleurs, vous le savez bien, les meilleurs voyageurs et leurs conseils, leurs histoires croustillantes. Donc vous avez entendu Nathalie Elal, Emmanuel Jarry,
bonjour. Philippe, bonjour à tous.
Ça c'est pour tout ce qui est gourmandise. Et bien sûr, Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet.
Bonjour Philippe.
Bonjour. Alors la Côte d'Azur, est-ce qu'on a besoin de dire où c'est ?
On va quand même rappeler que c'est deux départements en grande partie.
Oui,
c'est le
vrai.
83, donc le Var, ouais. Et le 06, les Alpes-Maritimes, avec ouais. Une très belle façade littorale, évidemment, la fameuse Côte d'Azur. Mais à ne pas oublier aussi l'arrière-pays,
oui, tout
qui
à
est
fait.
Même magnifique, qui dit Alpes-Maritimes, dit Alpes, avec le fameux parc national du Mercantour,
d'accord.
L'un des plus sauvages de France.
C'est long là, la Côte d'Azur.
Oui, c'est long. Plusieurs centaines de kilomètres, donc vous n'allez pas vous lasser, et des routes pittoresques extrêmement agréables à faire en voiture ou en moto le long de toute cette route en corniche jusqu'à Nice.
C'est vrai qu'en moto,
c'est la frontière
sympa.
Italienne même.
Mm-hmm, tout à fait.
Voilà.
Nathalie Elal, auteure,
oui.
Grande voyageuse. Alors, bon, vous êtes votre spécialité, c'est les adresses des célébrités.
Oui, si vous voulez.
Alors,
pourquoi pas ?
Vous êtes un peu notre paparazzi radio.
Ah bon ? Ça existe ce métier ?
Oui, c'est nouveau.
J'adore.
Et donc, la Côte d'Azur, ça doit être l'avalanche, là.
Oui, l'avalanche de lumière, surtout, parce que c'est une terre d'inspiration pour de nombreux artistes, à commencer par les peintres. Par exemple, Auguste Renoir, qui a eu un atelier à Nice entre 1911 et 1919. Le peintre Henri Matisse, qui a beaucoup peint également à Nice. Picasso, qui a écumé littéralement la Côte d'Azur, de Jean Lépin, Saint Raphaël, Antibes, Valoris. Il y a même un musée Picasso, d'ailleurs, à Antibes.
Mm-hmm.
Et puis, il y a un homme auquel le cinéma doit un nombre impressionnant de succès populaires.
Ah oui.
Oui.
Les tontons.
Les tontons, vous aurez reconnu, effectivement, les tontons flingueurs. Je parle, bien sûr, de Georges Lautner, qui est né en 1926 à Nice. On lui doit beaucoup, hein, les Barbouzes, le Guignolo, le Professionnel, Joyeuse Pâques, la Valise, la Mort d'un pourri. Enfin, il y a plein de gens aussi très importants dans le 7e art qui sont là-bas. Par exemple, Jean-Pierre Mocky était de là-bas, Mylène de Mongeau, Michel Larocque, Maurice René, enfin, tous ceux-là sont nés à Nice. Et puis, dans un autre registre, Simone Veil, évidemment, femme politique française qu'on ne présente plus, elle est née à Nice également. Et puis, dans un tout autre registre, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure en deuxième heure, je pense, ces aristocrates russes chassés par la révolution bolchevique de 1917 qu'on a appelés les Russes blancs. Pourquoi ? Eh bien, par opposition au drapeau rouge des révolutionnaires.
Et il y en avait beaucoup qui se sont réfugiés sur la
Côte d'Azur. Énormément.
Ouais. Ah oui. Très bien, on va découvrir tout ça pendant toute cette heure. Emmanuel Jarry, vous êtes journaliste spécialisé dans les voyages et la gastronomie. Vous avez créé l'émission « C'est meilleur quand c'est bon » sur Internet. Alors, la Côte d'Azur, c'est marrant, on pense aux stars, aux célébrités, on a plein de noms de villes, de lieux. Mais alors, en termes de plats...
Si. Ah bah la cuisine niçoise. La grande cuisine niçoise.
Mais un plat, la salade niçoise.
La salade niçoise, le pain bagnard. Mais moi, je pense surtout aux herbes, au romarin, au thym, aux herbes odorantes. Et puis, évidemment, tous les poissons de la Méditerranée.
Ah oui, j'allais dire les poissons quand même.
Et en particulier, en ce moment, c'est la saison de la langouste rouge. Donc, on va en manger tout à l'heure un petit peu.
Très bien, avec plaisir. Dans un instant, donc, sur Europe 1, super cocktail, Côte d'Azur et Sibérie. Ça a de la gueule quand même, non, comme voyage.
Oui, c'est bien.
À tout de suite.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures de voyage tous les après-midi, sans aucune contrainte, sans frontières, sans virus, rien, juste le plaisir de rêver. Après 17h, je vous emmènerai donc en Russie, le pays des tsars et des espaces infinis. Mais là, tout de suite, nous sommes sur la Côte d'Azur et ses stations balnéaires mythiques. Côte d'Azur, on ne va pas citer toutes les stars qui sont passées par là, la reine Victoria, et puis bien sûr, vous le disiez tout à l'heure, Nathalie Elal, Picasso, Matisse, un nombre incalculable de célébrités. C'est un des lieux de villégiature préférés des Français et des promeneurs et visiteurs du monde entier, puisqu'il y a en moyenne 11 millions de visiteurs par an sur la Côte d'Azur, en temps normal évidemment, hors Covid. Alors nous avons aujourd'hui, et c'est un grand bonheur, un guide exceptionnel, c'est Michel Boujna, acteur, humoriste, réalisateur, azuréen d'adoption, directeur artistique du festival de Ramatuelle. Bonjour Michel Boujna.
Bonjour.
Vous avez bien... J'entends un moteur derrière vous, c'est le moteur de quoi?
Ah, c'est rien, c'est un moteur qui est à côté. Attendez, je vais essayer de vous l'éliminer.
Et c'est pas une blague, hein.
C'est pas une blague.
Voilà, c'est... vous l'avez plus, là.
Non, je l'ai plus. C'était un moteur de quoi, sans indiscrétion?
C'est parce que je suis un peu au repos aujourd'hui.
Oui.
Je suis à la plage et il y a un moteur de bateau à côté qui est... voilà, c'est tout. Mais je suis à l'ombre à la plage, je suis très bien.
Mais c'est gentil en tout cas de nous accorder du temps comme ça pendant vos vacances. Alors, vous avez une...
Ouais, et pourtant, je vous jure que j'écoute la radio depuis tout à l'heure.
Ouais.
Et l'émission sur la sexualité,
oui,
plus les actualités, il y a de quoi se jeter par la fenêtre. Hein. Merci beaucoup, hein. J'étais en pleine forme, vous m'avez détruit.
Non, mais là, ça y est, vous êtes dans le bon
chemin. Je me vengerai.
Alors, vous avez une maison à Saint-Paul-de-Vence depuis 36 ans, depuis 1986. Vous avez une passion pour cette région, la Côte d'Azur. Mais vous êtes né en Tunisie. Comment vous vous êtes retrouvé sur la Côte d'Azur?
Ben, d'abord, à 11 ans, mes parents ont décidé de quitter la Tunisie pour des raisons multiples. On est arrivé en France. Mes toutes premières vacances chez ma tante, c'était à Juan-les-Pins.
Ah ouais.
Et j'avais 11-12 ans. Ah ouais. Mais surtout, ce qui était très important, c'est que j'étais pas loin de la Tunisie, vous voyez. C'est-à-dire que dès que je vois la Méditerranée, si je regarde bien et que je me concentre, je vois Carthage. Mais ça, c'est, il faut être très concentré.
Ouais.
Et donc, je peux pas vivre sans la Méditerranée. Donc, et puis, j'ai voulu m'installer quelque part. Il y a très longtemps, j'ai joué à Nice, au Théâtre de Verdure. Et on m'a emmené déjeuner à la Colombe d'Or que je connaissais pas. Ouais. Et en sortant de la Colombe d'Or, qui est un endroit magique et mythique, j'ai vu le paysage qui ressemblait à la Toscane, c'était pas loin de la mer, c'était pas loin de l'aéroport, c'était pas loin de tout. Et j'ai dit, je vais m'installer là.
Et alors, c'est vraiment votre maison maintenant, Saint-Paul-de-Vence, ou vous êtes toujours là parce que c'est pas loin de la Tunisie? Quand je dis votre maison, c'est-à-dire votre Havre.
Non, c'est ma maison, bien sûr. J'ai des amis très proches maintenant, j'ai des repères. C'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps de toute ma vie. Ouais. Pour moi, la Méditerranée, c'est pas que Saint-Paul-de-Vence, quoi. C'est tout. Et notamment, évidemment, la Tunisie. Si je pouvais... J'habiterais au milieu.
Ah oui.
Vous voyez? Ah oui. J'aurais une maison au milieu de la Méditerranée. Je sais que c'est un peu compliqué à construire.
Oui.
Mais si je pouvais, je ferais comme ça parce que pour moi, c'est vraiment, comment dire, la mer de l'humanité, la Méditerranée.
La Méditerranée est la mer de l'humanité.
Mare Nostrum.
Exactement. Enfin, plus spécialement la Tunisie d'abord. En fait, c'est la mer de l'humanité là où moi je suis. Vous comprenez?
Oui, je comprends, je vois. Je vois la notion. Mais vous inquiétez pas, du monde.
Exactement, on me soigne pour ça, vous inquiétez pas.
Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes relax à Saint-Paul-de-Vence?
D'abord, docteur, je suis jamais relax.
Ah bon?
Ensuite, oui, mais oui, parce que je travaille, j'adore mon travail, j'adore inventer des histoires, j'adore. Donc ça s'arrête jamais. Mais quand je suis à Saint-Paul et quand je suis sur ma Méditerranée, je le fais avec une décontraction extrême. Donc je fais la sieste d'abord, c'est fondamental.
C'est quoi le secret d'une sieste... bonne sieste?
Alors, d'abord bien manger. Ensuite, éventuellement de pas être tout seul.
Oui.
Ensuite, de fermer la chambre, de fermer les volets, d'avoir les rayons de soleil qui passent à travers les persiennes comme ça à peine.
Mais c'est ça,
d'être clair. Dans une chambre fraîche avec des draps frais.
Oui.
De se mettre dans les draps. Les sexologues qui étaient là tout à l'heure, ils vont être excités à la fin de ma démonstration. Les draps très frais, de s'allonger comme ça, éventuellement d'avoir des copains, des copines sur la terrasse d'à côté qui parlent du monde, qui refont le monde, qui s'engueulent, qui rigolent, qui mangent, qui tout ça. Mais vous êtes bercé par ce brouhaha gentil et tendre. Les cigales. Et au milieu de tout ça, bizarrement, du silence. Et ce silence-là, il vient du fin fond de la sieste. Et je pourrais écrire un bouquin sur la sieste.
Ah non, mais, votre description de la sieste, c'est une merveille.
On y est. Hein.
Ah, mais on y est tous, là. Vous allez plonger ensuite... l'émission dans un profond sommeil,
non,
merci.
Non,
vous allez voir, vous ne connaissez pas la suite. Ensuite, vous êtes dans le lit, vous n'êtes pas tout seul. Et à ce moment-là... et ensuite... Ensuite, évidemment, vous vous endormez d'un sommeil absolument profond, absolument tranquille, sans aucune angoisse parce que c'est pas la nuit. Et quand vous vous réveillez, vous revenez de tellement loin, c'est tellement bon. Et vous avez tellement rêvé, c'est tellement intense, que là, vous pouvez vous lever doucement, prendre un café, vous mettre à votre table de travail, écrire, un bonheur extrême, un peu comme quand on écrit très tôt le matin, quand le soleil n'est pas tout à fait encore levé, c'est un bonheur absolu.
Ah non, mais vous êtes l'homme le plus extraordinaire que je connaisse pour décrire une sieste, c'est merveilleux. On va garder, c'est un monument de radio ce que vous venez de faire là.
C'est très gentil, et encore je me suis retenu.
Michel Boujenah, restez avec nous, on continue à parler de sieste, de bons moments et de Côte d'Azur dans un instant avec vous sur Europe 1.
Et si on partait, Philippe Googler sur Europe 1.
2 heures de voyage tous les après-midi sur Europe 1, tranquillement, depuis son canapé. Après 17h, je vous emmènerai en Russie, au cœur de la Russie, celle où l'on va moins, la plus mystérieuse, la Sibérie, la Russie du lac Baïkal. Vous verrez ça tout à l'heure après le flash. Mais là, tout de suite, nous sommes sur la Côte d'Azur avec Michel Boujenah, sur la Côte d'Azur pour le plaisir d'écouter son chant, son accent. Écoutez ça.
De l'accent ? Mais après tout, en neige ? Pourquoi cette faveur ? Pourquoi ce privilège? Et si je vous disais à mon tour, gens du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort? Que nous disions de vous du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde. Et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent, pour nous, c'est en avoir. Eh bien non, je blasphème. Et je suis là de feindre. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les plaindre. Emporter avec soi
c'est
son formidable. Accent
c'est Fernandel. L'accent.
Oui, c'est magnifique.
C'est magnifique. Michel Boujenah, vous êtes en ligne avec nous depuis la Côte d'Azur. Je rappelle que vous êtes un vrai Azuréen d'adoption. Ça fait 36 ans que vous avez une maison là-bas et que vous partagez votre cœur entre là-bas et Paris. Qu'est-ce qui rend cet accent joyeux? Pourquoi c'est tout de suite le soleil?
Ben, je sais pas. De toutes les façons... Quand on vit ici et quand on est ici, moi, tous mes amis d'ici, vraiment, il y a d'abord le sourire quand on se dit bonjour. C'est jamais un sourire de Parisien. C'est toujours un sourire. Il y a un sourire. Ça ne veut pas dire qu'ici les gens ne sont pas forts en gueule et que vaut mieux pas faire une queue de poisson à un Azuréen. Hein, je vous le conseille. Mais Il y a un humour naturel. Alors ça vient, à mon avis, du soleil. Ça vient évidemment de la Méditerranée. Ça vient de ce mélange magique entre la nourriture, la culture. Vous savez, quand Rému est mort, il y avait des Américains à son enterrement. Il y a des gens qui ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et les Américains ont dit « On vient à l'enterrement du plus grand acteur du monde. »
Ah oui ?
Et s'il y a une chose qui est étonnante ici, c'est que ici tout le monde est acteur. tout le monde raconte. Ouais. C'est pour ça que quand vous faites un succès dans le sud de la France et sur la Côte d'Azur, dans les théâtres, que ce soit à Marseille, à Nice, à Antibes, où vous voulez, si ça passe, vous pouvez aller n'importe où.
Ouais, oui.
Et les gens seront contents. Parce ouais. que ici, vous avez affaire à des spécialistes. Le plaisir de la langue, le plaisir de la narration est nécessaire, est vital. Et je pense qu'elle est vitale pour tout le monde, partout, hein, que ce soit dans le nord, dans le sud, partout. Là, elle prend une couleur particulière. En tout cas, pour moi, moi, je suis de mauvaise foi. Vous comprenez ? J'aime tellement cette Méditerranée que je suis de mauvaise foi. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont un accent du sud et qui sont des abrutis. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont un accent du sud et qui sont des super abrutis, même. C'est-à-dire, l'accent n'est pas une garantie d'intelligence. Mais... moi, j'en ai besoin, et puis moi, j'ai un accent, enfin un peu, peut-être un peu moins maintenant avec le temps, mais j'ai souffert moi du regard des autres à propos de l'accent.
Oui.
Donc quand je suis là, c'est un grand bonheur, vraiment c'est un grand bonheur. Et, oui. et le fait de m'occuper de Ramatuelle ici, ça, pour moi, c'est un symbole magnifique. Et en plus, bizarrement, regardez. Grâce à Jacqueline Franjou, la présidente du festival, qui a été extrêmement courageuse de dire on va le garder, on va le garder, on va le garder, et elle a eu raison.
Ouais. Vous parlez de le garder cette année avec le Covid, c'est ça?
Oui, mais bien sûr. Alors on va respecter toutes les conditions sanitaires imposées par la préfecture et le reste, mais on va le faire. Mmh. Et c'est formidable.
Mais c'est de quand à quand?
C'est formidable. C'est du 1er août au 10 août. Ça commence avec Jarry, il y a François-Xavier de Maison et Berléand, il y a Palmade, il y a Abdelmalik, il y a... je joue cette année avec Charles Berling, inconnu à cette adresse. Vous voyez, on est protégé par la Méditerranée.
Et alors,
moi, vous avez compris ?
Oui, j'ai bien compris, je vois bien. Il y a quand même une petite question que j'aimerais vous...
Si vous n'avez pas compris, je vais le répéter mille fois.
Mais en fait, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question quand même. On peut avoir l'impression, quand on va par exemple à Saint-Paul-de-Vence, que c'est devenu... tellement touristique que ça a un petit côté un peu artificiel. Donc comment vous regardez ça, vous?
Moi, j'y vais à 8h du matin, à 7h du matin, quand il n'y a personne. Ou j'y vais tard le soir, vers 10h30, 11h, prendre un verre dans un truc qui s'appelle L'Art et le Vin à Saint-Paul, que j'adore. Mais c'est vrai qu'il y a une période de l'année où c'est très touristique. Mais sinon, venez au mois de septembre ou venez au mois de mai. Et je vous montrerai. Bon, si vous savez faire la sieste, vous pourrez peut-être aller chez moi.
Bon, on a la
sinon,
recette là.
C'est on
bon.
Amène
si
les vous... draps.
Ouais, si vous savez. Non, vous inquiétez pas, les draps, j'ai des draps. Non. J'ai fait des économies pour acheter des draps, j'ai des draps à tomber par terre.
Et alors,
d'ailleurs, quand vous êtes dans un lit chez moi, vous tombez par terre.
C'est dangereux chez vous.
Alors, oui, très.
Saint-Paul-de-Vence, c'était aussi le lieu de vacances de stars énormes, hein, de personnages mythiques comme Belmondo, comme Montand, comme Simone Signoret. Vous en avez croisé personnellement ?
Jean-Paul est en vacances en ce moment ici.
Ouais,
moi j'ai eu le privilège. J'ai vu Jean-Paul Belmondo il y a 2 jours.
Ouais.
On a beaucoup rigolé. Il a continué à faire des blagues. Il m'a caché mon téléphone, je ne pouvais plus partir. Et c'était très... Moi, j'ai une tendresse pour toute cette génération. Et j'ai eu la chance de les approcher. Moi, j'ai été le partenaire de double de Lino Ventura, quand même.
Au tennis,
oui.
Incroyable.
Il m'appelait le matin et il me disait « Tennis, telle heure ». Et il raccrochait.
Ouais.
Et j'allais jouer au tennis. Dès que la partie était finie, il me disait « Bon, maintenant, tu rentres et tu vas travailler ». Je dis « Mais Lino, je peux boire un verre d'eau. Tu vas travailler, c'est tout. Tu te tais maintenant ».
Ah, il était comme ça dans la vie aussi.
On riait, mais oui, mais c'était au 8e degré.
Ah, d'accord.
Il était tellement gentil. Ouais. Et c'est des moments tellement... Moi, j'ai joué au tennis avec Liza Minnelli.
Pas mal.
J'ai joué au tennis avec James Bond, moi, avec Roger Moore.
Et qui a gagné?
Moi, je pense. Parce que, curieusement, Roger Moore avait des jambes très, très... On ne les voit pas dans les films, mais il avait des jambes extrêmement fines. Et absolument...
Non, parce qu'on apprend une info énorme, c'est que James Bond n'a pas de jambes.
Des cannes de
serin.
Des cannes de serin, c'est ça?
Oui, exactement. Et j'ai évidemment mon temps, évidemment. Il y avait un acteur dont on parle relativement peu, et c'est dommage, qui s'appelait Georges Géré, que j'adorais et qui était un grand déconneur. Et il a laissé un souvenir à Saint-Paul magnifique. J'ai vécu la fin de cette période où quand on mangeait tous ensemble, c'était un vrai bordel et c'était très sympathique. Mais c'est vrai que c'est très touristique. C'est vrai que parfois on peut le regretter. En même temps, comment voulez-vous interdire la fascination que les gens ont pour cette région ?
Oui, et puis
c'est impossible.
Et puis on peut pas dire à un tel t'as le droit d'y aller, à un autre t'as pas le droit. Pourquoi on sélectionnerait ?
Ah non, moi j'aimerais bien sélectionner. Par exemple, interdire les cons sur la Côte d'Azur. Ça serait formidable, mais alors vous imaginez le boulot.
Ouais. Merci beaucoup Michel Boujna, j'ai adoré cette façon de nous raconter votre Côte d'Azur. Je rappelle que la 36e édition du festival de Ramatuelle que vous dirigez se tiendra du 28 juillet au 10 août. Et donc au programme, comme vous nous l'avez dit, Jacques Weber, Pierre Palmade, Abdel Malik pour son nouveau spectacle Le Jeune Noir à l'épée. Puis aussi vous Michel Boujna aux côtés de Charles Berling. Pour le chef-d'œuvre de Cressman Taylor, Inconnu à cette adresse. Merci Michel.
Merci à vous tous.
Bonnes
Merci.
Vacances.
Merci à vous tous.
Au revoir.
Et n'oubliez pas de faire la sieste. Au revoir.
Au revoir. Dans un tout petit instant sur Europe 1, les histoires croustillantes de la Côte d'Azur. Et Dieu sait qu'il y a du grain à moudre là-bas avec Nathalie Elal. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait tous les jours sur Europe 1, un grand voyage, deux voyages même, un en France, un au bout du monde. Tout à l'heure, nous irons au fin fond de la Sibérie, un endroit assez incroyable qui peut paraître rude, hostile, mais en même temps incroyablement attachant. Vous verrez ça tout à l'heure à 17h. Et puis, pour le moment, nous sommes en Côte d'Azur, sur la Côte d'Azur. Et Nathalie Elal nous a dégoté des petites histoires, comme on les aime. Et là, alors là, c'est un festival. On reste avec Brigitte Bardot, d'ailleurs.
Oui, alors on est plutôt du côté de Cannes, évidemment, ouais. Qui rime avec strass, avec paillettes, mais aussi avec starlette. Et vous allez voir que certaines ont provoqué bien des scandales. Et en effet, Philippe, comme Brigitte Bardot, quand elle pose en bikini sur la plage de Cannes en 1953, elle a juste 19 ans, on est quand même 2-3 ans avant le chef-d'œuvre « Et Dieu créa la femme ». Et c'est Roger Vadim qui l'a amenée parce qu'il cherche des fonds pour préparer son film. Mais ce qui fait scandale, ouais. C'est son nombril à l'air. Parce qu'à l'époque, une femme respectable, elle ne doit surtout pas montrer cette partie de son corps.
Le nombril ?
Ah, le nombril, juste le nombril. Il faut attendre 1968 et le mouvement féministe pour que les Françaises osent en faire autant, vous imaginez. Alors, 2 ans plus tôt, il y a une autre starlette franco-égyptienne qui s'appelle Simone Silva, qui a fait beaucoup plus fort. En dégrafant carrément son soutien-gorge sur l'assistance des photographes. Il faut dire quand même qu'elle a un peu trop picolé lors d'un pique-nique aux îles de Lérins. Et il y a une image où on la voit cacher ses seins avec ses mains sous l'œil hilar de l'acteur américain Robert Mitchum qui fait le tour du monde. Mais malheureusement, les choses tournent mal. Elle ne va pas du tout être comme Bardot, elle, parce que l'Amérique puritaine est outrée. Sa carrière est stoppée net. Dépression, suicide en 1957, c'est pas très drôle pour cette jeune femme. Donc, quand Sophie Marceau dévoile par accident son sein nu en 2005, vous savez, avec le coup de la bretelle là, qui tombe, on n'est pas du tout dans le scoop. Mais le plus grand scandale de l'histoire de Cannes, il n'est pas dû à des actrices dénudées. Il est dû à la projection du film La Grande Bouffe en 1973. C'est un film de l'Italien Marco Ferreri avec Michel Piccoli, Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Andrea Ferrol, et ça déclenche véritablement l'indignation. C'est un scandale sur la croisette parce que c'est une histoire qui montre 4 hommes se goinfrant jusqu'à la mort en compagnie d'une institutrice un petit peu cochonne. Donc il y a des hurlements, des insultes, des remous dans la salle et on se souvient de ces mots d'une spectatrice complètement indignée. C'est un scandale, un scandale. Ça gagne du pognon ça sur le dos du pauvre populo.
Ah ouais ?
Mais oui.
Mais c'était un scandale parce qu'il mangeait, il gâchait de la nourriture, c'était ça le scandale ?
Parce qu'en fait, on les voyait éructer, on les voyait vraiment faire des bruits que la décence m'empêche de dire au micro, on les voyait se goinfrer,
ils se suicident.
C'est un suicide gastronomique. Okay. Et puis c'est une dérision de la société bourgeoise qui est complètement tournée en dérision, donc ça passe pas du tout.
D'accord. Alors à Cannes, on voit les films, évidemment, mais on en tourne aussi dans la région.
Alors on en tourne effectivement au studio de la Victorine à Nice, parce que c'était vraiment, il faut le dire, le Hollywood français. La ville de Nice, avec son climat ensoleillé, elle attire les tournages dès le début du cinéma, en fait. Il y a des studios importants qui sont créés en 1919, qui vont fonctionner avec des hauts et des bas, mais il y a quand même des films mythiques qui vont se tourner là-bas, comme Les Visiteurs du Soir ou Les Enfants du Paradis. Et puis dans les années 50, La Fanfan, la Tulipe. Et puis plus tard encore, en 1972, La Nuit américaine par Truffaut, qui est tournée là-bas.
Alors, Cannes et Nice, donc c'est les villes qui attirent des stars, des célébrités, des milliardaires. Mais donc j'imagine que ça attire aussi quelques personnes intéressées.
Oui, la convoitise. Oui, ouais. On peut dire ça comme ça. Alors, le plus fameux braquage de l'après-guerre, il a eu lieu à Cannes. Il s'agit du vol des bijoux de la Begum, l'épouse de l'homme le plus riche du monde de l'époque, l'Aga Khan. Alors, pour l'anecdote, c'est une Française, Yvette Labrousse, qui est fille d'un conducteur de tramway et d'une couturière, qui est devenue Miss France en 1930. Elle a décroché le gros lot en épousant, à 38 ans, ce chef religieux qui a 67 ans. Vous voyez la petite différence d'âge. Ouais. Donc, nous sommes le 3 août 1949. Le couple vient de quitter sa luxueuse demeure du Canet, direction aéroport de Nice. Et là, la voiture, elle est bloquée, attaquée par trois hommes armés qui vont s'emparer en 2 minutes chrono d'une mallette en cuir rouge rempli de bijoux, dont un diamant de 22 carats. Alors, le montant du casque, pour vous donner un chiffre, à peu près 6 millions d'euros actuels.
Mais pourquoi ils se baladent avec 6 millions
d'euros? Parce que la Begum, ses bijoux, c'était mythique, il fallait pas. Mais alors, surtout, il y a quelque chose de très drôle, c'est qu'on raconte que cette histoire aurait inspiré le dessinateur Hergé pour l'album Les Bijoux de la Castafiore, parce que la Begum se serait exclamée « Ciel, mes bijoux !»
Ah oui, vraiment?
Mais oui, bien sûr. Un autre cas célèbre, avec Nice comme décor cette fois, c'est celui de la salle des coffres de la Société Générale de Nice le 18 juillet 1976. Là, il y a un gang qui a pénétré en passant par les égouts, en creusant durant tout un week-end un tunnel de 8 mètres de long. Et comme l'agence bancaire n'est pas équipée de système d'alarme, eh bien les coffres sont fracturés. Il y en a pour 50 millions de francs de l'époque, 31 millions d'euros d'aujourd'hui. Et on a retrouvé écrite à la craie sur un mur une phrase un petit peu ironique, faut bien le dire. Ni armes, ni violence, et sans haine. Mmh. Et l'auteur du casse, eh bien, c'est le fameux Albert Spaggiari, qui est un photographe de noces et de banquets, proche de l'extrême droite, proche de Jacques Médecin, l'ancien maire de Nice de l'époque, ancien para d'Indochine. Il va être arrêté et l'histoire ne s'arrête pas là, c'est le cas de le dire, parce qu'en mars 1977, il s'échappe du palais de justice en sautant par la fenêtre du bureau du juge et il fait une chute de 7 mètres, il retombe sur ses pieds, il disparaît en Amérique du Sud, il revient plus tard en France. Il a même publié un livre, le récit de son aventure, qui s'intitule « Les égouts du paradis ». On n'a jamais retrouvé le butin,
ah oui,
inutile de vous dire.
Donc il en a profité.
J'imagine qu'il en a bien profité. Ouais. Alors, les braquages, ça se passe aussi dans les films, à Cannes, bien entendu. Par exemple, vous aurez reconnu la musique du célèbre film Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil, avec ce film culte avec Gabin et Delon dans les rôles principaux. C'est l'histoire de deux malfrats, un vieux et un jeune, qui s'associent pour braquer un casino. Et ce casino, eh bien, c'est celui du Palm Beach de Cannes, le célèbre casino d'été, aujourd'hui malheureusement à l'abandon. Mais il paraît qu'un projet de rénovation est à l'étude. On croise les doigts pour visionner peut-être ce chef-d'œuvre à l'intérieur du Palm Beach.
Merci Nathalie, elle a de nous faire vibrer avec toutes ces histoires. Dans un instant, les saveurs du Sud, les saveurs de la Côte d'Azur. A tout de suite sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait tout à l'heure après le flash de 17h, la Russie, ses secrets, ces terres mystérieuses des profondeurs de la Sibérie. Et puis tout de suite, la Côte d'Azur et sa gastronomie avec Emmanuel Jarry. C'est vaste, la Côte d'Azur. C'est marrant.
Oui, vous n'avez pas...
Ben, je ne sais pas par quel bout l'empoigner, moi, côté gastronomie.
Moi, je vais vous emmener sur le massif de l'Estérel, qui est un grand volcan. Vous le connaissez. Alors, 250 millions d'années, c'est des roches rouges volcaniques qui se jettent dans la Méditerranée. Et la première chose qu'on m'a racontée, c'est l'origine de ce mot. On m'a dit Estérel, ça veut dire stérile.
Ah bon ?
Alors moi, quand je suis partie avec une guide naturaliste me balader, j'avais ça en tête. Je me suis dit, bon, bah voilà, je vais voir des roches et puis basta.
Et il n'y aura rien.
Et en fait, on a commencé à marcher avec cette femme et on a fait quelques pas. Elle s'est accroupie, elle m'a montré une plante. On appelle ça en provençal la nerte, c'est un peu comme de la myrte. Et elle m'a expliqué qu'on peut prélever des feuilles fraîches, les mettre sur une assiette, on fait griller des rougets, on ferme tout ça. Et en fait, les feuilles de myrte parfument à l'étouffer comme ça le poisson. Après, on a continué à marcher. Et puis, elle m'a montré une autre plante, la cousteline. C'est une salade qu'on croque pour sa fraîcheur. Un peu plus loin, il y avait de la...
Ça a quel goût, la cousteline?
Bah, c'est une petite, un goût un peu herbacé, mais c'est surtout... Oui, c'est un petit côté toujours un peu... Vous connaissez, Nathalie, ou pas?
Non, non, pas
du tout. Un peu... Je sais pas.
C'est rare, non? Non.
Bah là, en tout cas, il y en a pas mal. Un peu frais, comme ça. Le plantain lancéolé. Donc, c'est en fait, on fait du pesto sauvage avec ça. Et on peut parfumer avec des pâtes.
Bon, vous
voyez, des petites pâquerettes des bois, des boutons de fleurs qu'on peut accommoder au vinaigre.
Des pâquerettes à manger?
Oui, en fait, quand les fleurs sont encore en boutons, on les met dans du vinaigre et voilà, après, ça peut parfumer des sauces. Et en fait, on n'avait pas fait 20 pas qu'on a découvert 5 ou 6 espèces étonnantes. Et alors, elle me raconte, bah, c'est toute l'année comme ça. Au printemps, on ramasse des asperges sauvages, des carottes sauvages où on mange les fleurs, les feuilles, les racines. Et en fait, elle me dit, pendant une visite d'une demi-journée, on peut découvrir 80 espèces comestibles. Et donc, sans compter les champignons, elle rajoute. Donc, je lui demande, mais alors, quels champignons? Moi, j'adore les champignons.
Ouais.
Et elle me fait cette réponse merveilleuse. Toutes les espèces auxquelles vous pensez, on les trouve sur le massif de l'Estérel.
Ah, c'est dingue. J'ai commencé... Pourquoi c'est stérile, alors?
Eh ben non, justement, ça l'est pas du tout. Mais en fait, c'est stérile parce qu'on ne pratique pas de culture.
Ah.
Mais si on est béotien, on n'y voit que des mauvaises herbes. Mais quand on a un petit peu de culture botanique, eh ben voilà, on découvre toutes ces belles herbes.
Ah,
et donc, moi, j'ai énuméré les morilles, les chanterelles. Elle me dit, oui, les cèpes, oui, les oranges, oui, les trompettes, oui, il y a tout. Voilà, donc c'est un monde merveilleux et personne, enfin si vous n'avez pas la connaissance de botanique, vous passez à côté.
Je suis passé à côté de tout, justement.
Eh ben voilà.
Faut que j'y
retourne. Vous avez vu les paysages sûrement, c'est
roche
et tout,
mais
voilà, moi j'ai découvert des choses qu'on ne soupçonne pas.
Mais moi les plantes sauvages, j'ai toujours parce qu'il y a un renard ou un mouton qui a fait pipi dessus juste avant.
Ça vous
avez l'esprit mal tourné.
Vous avez peur de ça?
Le bon sens est chez vous,
Philippe. Non, mais je sais pas, j'ai pas envie de me cuisiner ça.
Alors non, parce que vous pouvez prélever par exemple des baies. Pour vous, il faut prendre des baies, des choses qui sont un peu en hauteur en fait.
Et on trouve que des plantes sauvages là-bas?
Oui, parce que c'est une zone Natura 2000, mais on peut prélever des produits dérivés, si on peut dire, le miel. Je parle de ce produit parce que j'ai dégusté énormément de miel dans beaucoup de pays, et je crois, là je le dis comme ça, c'est le meilleur miel que j'ai dégusté.
Ah bon?
Ouais. Mais pas un peu trop fort, non?
Non, bah pas du tout. Ah bah alors oui, moi j'aime pas les miels sucrés, j'aime les miels qui ont du goût, et justement...
Il est très fort, hein?
Bah, non, il est fort comme... Enfin, il est complexe,
très aromatique,
subtil.
On va dire.
Il est complexe, c'est subtil. C'est parce qu'il y a la bruyère blanche, le thym, le lierre, l'arbousier, tout ça.
Mais
donc,
le thym, ça parfume énormément le miel. Hein. Ça arrache un peu.
J'aime
hein.
les miels un peu puissants qui ont du caractère, voilà, comme les hommes. Et donc...
bah voilà. Et donc... Ça, c'est fait. Ça, c'est fait.
Nathalie est là, le numéro 2.
Voilà. C'est dit.
Ça y est, c'est parti.
Vous m'agacez avec ce miel fort. Et donc, en fait, il faut vous imaginer quand même, je vous plante le décor, vous êtes au milieu de ces roches rouge. Au milieu de cette végétation, il y a des bosquets de romarin odorants et puis en contrebas, le bleu immense, la Méditerranée. Au fur et à mesure que la journée avance, on a envie de plonger dans cette eau. Quoi. Donc, voilà, parce qu'on est là-haut et on a envie de descendre en bas.
Et alors comment on fait? On ne se jette pas du haut de la falaise?
Non, on redescend tranquillement et on va vers à Boulouris où on s'attable au bistrot Loudet qui est quasiment sur la plage. Alors on peut piquer une tête. Ça, c'est des restaurants que j'aime bien parce que vous voyez, en attendant le plat, on se dit tiens, on a envie de se baigner.
Ça,
et ben on
mal,
y va.
Ouais. Bah oui, mais après on mange trempé.
On vous prête une serviette parce que c'est un endroit assez élégant.
Bah alors les baies, il y a des bestioles, les herbes aussi, la langouste, ça va plus, mais Philippe.
Le bistrot Loudet, sa spécialité, c'est les pâtes à la langouste. Mmh. Et le patron, alors vraiment, c'est une forte personnalité. Il est italo-corse par la mère, corso-provençal par son père. Alors comme il dit avec humour, on est loin de la Belgique.
Ouais.
Donc il prépare des linguinés à la langouste, il coupe des tronçons de langouste, il les fait revenir avec de la tomate, des épices, tout ça, et hop, dans les pâtes. Et en fait, à l'origine, il m'expliquait que c'est un plat que faisait les pêcheurs, parce que quand ils n'arrivaient pas à commercialiser leurs langoustes, bah, ils les mangeaient. Donc ils cassaient des petits morceaux pour partager, ils rajoutaient des pâtes. Et aujourd'hui, ce plat a changé de répertoire, c'est devenu un plat de luxe. Et souvent, je remarque que la cuisine du pauvre, c'est celle qui finit dans les assiettes de luxe.
Ouais.
Parce que justement, je l'ai déjà dit, je crois, quand on n'a pas d'imagination, qu'on n'a pas de produit, on s'applique, on invente et on fait des très très bonnes recettes qui deviennent mythiques.
Ouais. Alors, est-ce qu'on va quand même parler un petit peu de la cuisine niçoise, qui est quand même, je crois, classée au patrimoine de l'humanité?
Alors, au patrimoine immatériel national français, et en fait, c'est un premier pas vers le patrimoine immatériel.
Ah, c'est pas encore fait.
Non, voilà. Ça, c'est le ministère de la Culture qui donne ce patrimoine culturel immatériel. Je crois qu'ils l'ont eu en 2019. Ils étaient très contents. Alors, alors, c'est vrai que la cuisine niçoise, on peut en parler pendant deux heures. Il y a énormément de plats. Je voulais parler de la salade niçoise parce que c'est la plus connue, et surtout parce que c'est une recette qui m'amuse. Parce que si vous mettez un ingrédient qui colle pas, qui est pas le bon ingrédient, alors là, il y a tout Nice qui s'insurge. Mmh. Et en fait, il faut respecter la recette. Or, quand vous demandez la recette, on dit il n'y a pas de recette. Chaque famille fait un peu à sa manière. Donc, c'est compliqué. Mais il y a des choses, des interdits. Donc, pas de légumes cuits, que des crudités. Donc, les haricots, on oublie. Pas de maïs, pas de riz, hein, tout ça, c'est pas possible.
Pas de riz dans la salade niçoise.
Non, Philippe, pas de riz.
Ah bon, décevez.
Non, alors là, des Niçois nous écoutent. Pas de riz, pas de maïs, que des produits qui poussent dans la région. Ouais. Donc des petites fèves, donc par exemple du mesclun, des artichauts violets, tout ça cru. Hein. Ouais. Et on rajoute du thon et des anchois. Et si on n'a pas de couvert, j'adore, on met tout ça dans un gros pain rond qu'on baigne dans l'huile d'olive et ça devient un pain bagna. Donc bagna, je crois que ça veut dire baigner, bien tremper d'huile d'olive.
Ce que j'aime avec la salade niçoise, c'est que c'est un plat aussi un peu international, donc c'est repris autour du monde. Et quand vous allez souvent aux États-Unis, il y a salade niçoise au menu. Alors moi je dis, je voudrais une salade niçoise, mais ils ne comprennent pas. Il faut dire une salade niçoise.
On leur a bien piqué la salade César aux
Américains.
Oui,
c'est vrai. Dans un tout petit instant, les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier qui nous a listé ses meilleurs trucs, ses meilleures astuces pour profiter de la Côte d'Azur.
Europe 1, Philippe Googler.
Et vous êtes bien, ne changez pas, où que vous soyez, sur votre canapé, dans votre voiture, sur la plage.
À la sieste.
Avec Michel Bougenard.
Ou qui vous voulez. L'essentiel, c'est de vous laisser porter et nous vous emmenons très très loin. Actuellement en côte, sur la Côte d'Azur, et dans quelques instants, après le flash de 17h, nous partirons dans les tréfonds de la Russie. Jean-Bernard Carrier, on va parler de la Côte d'Azur. Vous, c'est plutôt les îles qui vous intéressent.
Ben oui, parce que surtout qu'il y en a des magnifiques. Je vous invite à me suivre du côté des îles d'or, les joyaux de la côte varoise au large de Hyères. On les appelle aussi les îles de Hyères, d'ailleurs. Elles sont au nombre de 3 et elles ont des noms de reines. Porquerolles, Porquerolles et l'île du Levant. Alors, je vais commencer par celle que je préfère, c'est vraiment Porquerolles, qui fait partie du premier parc national marin d'Europe et de Méditerranée depuis 1963. Tenez-vous bien. Philippe, vous avez peut-être une idée de pourquoi j'ai pris Porquerolles en premier, parc national marin, ça vous évoque quoi ?
Mais parce que vous aimez les oiseaux et la plongée.
Alors, c'est la deuxième option.
Ce sont vos deux dadas.
Alors, c'est surtout pour la plongée, évidemment. C'est synonyme de fond marin paradisiaque, interdiction de pêche, interdiction de chasse sous-marine depuis plus de 40 ans. Autant dire que la faune marine s'épanouit. Quand on met la tête sous l'eau, vous allez croiser des espèces comme les sards, les corbes, des gros bancs de mérou bien dodus.
Et puis ça, est-ce que c'est méchant, un mérou dodu ?
Non, ça a des grosses lèvres, ça vous regarde un peu bêtement, pour être honnête, à travers le masque, mais c'est complètement inoffensif. Et surtout, une autre espèce qu'on ne croirait pas croiser dans ces zones méditerranéennes, les barracudas.
Ça, c'est méchant.
Alors, ça peut être méchant, c'est très effilé, ça ressemble à une espèce de lame de couteau métallique avec des grandes dents.
En Méditerranée,
et surtout autour de Porquerolles. Voilà. L'eau est souvent très claire.
On peut quand même y mettre un pied.
Mais on peut faire la plongée, mon cher Philippe. Et je sais que vous allez y aller un de ces jours. Alors, attention, l'eau est à peu près à 25 degrés. Est-ce que ça vous va ?
Un peu juste.
Je le savais. Bon, alors Emmanuel, je sais que vous ne plongez pas.
Ah, pas tous les jours la plongée, non ?
Vous n'avez pas la plongée sous-marine. Alors, pour vous, j'ai prévu que vous restiez au sec sur l'île de Porquerolles.
Super.
Petite pause méditation dans la nature. C'est tout petit Porquerolles, pas de voiture, pas de vélo. Tout se fait à pied, c'est vraiment un joyau, c'est la Méditerranée éternelle, comme elle était sans doute il y a 100 ans ou 1000 ans d'ailleurs.
Mais pourquoi méditation ?
Bah, c'est très inspirant, si
non,
vous
mais
voulez.
Il y a du cocktail ou des petites choses à
non, il y a très... non, c'est vraiment l'île sauvage.
Bon, voilà. Okay.
Alors je vois que Nathalie me fait signe, elle se dit, alors où sont les plages dans ces îles ?
Vous voulez dire naturiste ?
Vous avez deviné, parce qu'à côté de Porquerolles, il y a l'île du Levant.
J'ai le senti.
Ben voilà, ben, c'est ça, c'est vraiment ça, l'île du Levant. Alors quand c'est vraiment l'île nature et l'île naturiste, c'est l'un des plus grand domaine naturiste d'Europe et une de la plage qui est très connue pour ça. On vient, naturisme obligatoire d'ailleurs, hein, donc voilà, il faut savoir quand
on vient avec un maillot de bain, on est chassé ?
On ne peut pas, il faut tomber le maillot, comme on dit. Le reste de l'île, alors c'est une partie d'île, le reste de l'île, ce territoire militaire, je me demande d'ailleurs comment coexistent à la fois les militaires et les naturistes.
Et
alors,
pourquoi les militaires ne pourraient pas être naturistes ?
J'avais pas pensé à ça.
Pourquoi c'est opposé ?
C'est vrai,
alors, la petite touche culturelle quand même, pour faire chic.
Oui, parce qu'il y a l'autre île qui s'appelle... Il y a une autre île sur laquelle on peut trouver la fondation Carmignac. Voilà. C'est à Porquerolles, ça, la fondation Carmignac. Ça a été fondé en 2018, c'est en pleine nature. Et c'est un grand site tenu par M. Carmignac, dans lequel il y a 300 œuvres d'art contemporain en pleine nature et qu'on apprécie en se déchaussant. Donc vous déchaussez pour mieux vous imprégner des lieux et de la teneur de ces œuvres. Il y a de très belles œuvres. Il y a du Basquiat quand même, du Andy Warhol et du Roy Lichtenstein. Il paraît que les Macron adorent. Voilà ce qu'on m'a dit.
Comment vous savez ça ?
On me l'a dit, voilà, sur place à la Fondation Carmignac. Mais ça, c'est l'île de Porquerolles, c'est juste à côté.
Comment vous faites, Jean-Bernard, pour apprécier ou pour aller jouir de la Côte d'Azur en évitant la foule et le grand nombre. Est-ce que vous avez vos petits secrets, vos petites adresses?
Ouais, alors l'idéal, moi j'aime beaucoup le massif de l'Estérel.
Ouais.
C'est l'un de mes préférés.
Emmanuel,
on en a parlé pour la gastronomie, mais même quand on longe la fameuse Corniche d'Or, ça s'appelle comme ça, c'est la route pittoresque entre Saint-Raphaël et Cannes. Il y a des points de vue absolument magnifiques. Alors on peut le faire côté route, en voiture, en moto, mais je préconise plutôt de le faire en catamaran. À partir de Saint-Raphaël, des excursions côté mer, où vous avez tout le massif de l'Estérel qui s'inscrit en toile de fond. Si vous allez au coucher du soleil, ça s'embrase complètement. Il y a des dégradés de couleurs qui sont somptueux. Un petit verre à la main, c'est super
et
romantique.
Et la mer est protégée là-bas, la zone Natura 2000, où je sais pas, il y a une protection, donc il n'y a pas de pêche. Donc je sais pas
c'est
si
pas
les
bétonné,
sont...
en plus, donc c'est pas bétonné, je précise. Les fonds sont protégés.
Ah,
et avec le catamaran, vous avez vraiment toutes les petites criques qui sont accessibles. Vous avez une vue absolument somptueuse sur ce massif.
Et Nathalie, j'ai une petite info pour vous.
Ah oui,
ouais, je vais essayer de vous éblouir, parce que vous, les bonnes infos, c'est vous, normalement.
Oh, vous êtes trop gentil, Philippe. C'est
que, est-ce que vous savez d'où vient le nom Côte d'Azur?
Bah non, c'est pas de la Côte d'Adam, ça c'est
et
sûr.
Ben, mais... Ça vient tout simplement d'un écrivain dijonnais qui s'appelle Stéphane Liégeard,
oui,
et qui est originaire de la Côte d'Or,
oui,
et qui en 1887 a publié un livre qui s'appelle La Côte d'Azur, parce que vous voyez, il avait découvert cet endroit azuréen, magnifique, et par allusion à sa Côte d'Or natale, il l'a appelé la Côte d'Azur. Ça a eu du succès et c'est resté.
Et Côte d'Opale, ça va avec?
Alors, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas pour la Côte d'Opale. Mais en tout cas, voilà, cette histoire est assez étonnante.
Écoutez, merci pour l'info.
On dit aussi la Riviera, tout simplement.
Oui,
on appelle ça la Riviera. C'est moins beau, je pense.
Et pourquoi?
Et oui, pourquoi Riviera?
La Riviera, je ne sais pas. La Riviera niçoise.
Ouais, bon, écoutez, c'est à creuser.
Vous savez, au fait, Philippe, il y a aussi un train, le train d'Épinay.
Oui. Il est charmant.
Bah, il est charmant. Il fait Nice jusqu'à Digne. L'arrière-pays niçois à bord du train d'Épinay, c'est aussi quelque chose que je recommande vraiment parce que là, vous êtes dans des paysages extraordinaires et en prenant votre temps.
Très bien. Merci beaucoup Jean-Bernard pour tous ces bons tuyaux. Dans un tout petit instant, après le flash de 17h sur Europe 1, nous serons dans le plus grand pays du monde, le pays du Transsibérien, le pays de la Place Rouge, des grandes étendues glacées. Je vous emmènerai en Russie. À tout de suite. Vous êtes sur Europe 1. Il est 17h, les infos, Marguerite Lefebvre.
Météo France étend cet après-midi sa vigilance orange en raison du risque de canicule. 13 départements désormais sont placés en vigilance dans le centre-est du pays, sur une zone formant un triangle entre la Côte d'Or, la Haute-Loire et la Savoie. Dans ces départements, la nuit sera très chaude et des records de température sont attendus pour la journée de demain. Avec les fortes chaleurs, pas évident de porter un masque et pourtant, il est recommandé partout en France, en extérieur, et même obligatoire dans certaines zones, dans la vieille ville de Saint-Malo, par exemple, dans certains quartiers de Bayonne et de Biarritz à partir de lundi. Et dans le Nord, les autorités devraient annoncer demain un renforcement des mesures sanitaires. À Lens, le conducteur du poids lourd a été mis en examen. C'est lui qui, mardi après-midi, a provoqué l'accident de la route qui a fait 4 morts, 4 enfants de 9 à 13 ans. Ce chauffeur a expliqué aux enquêteurs qu'il avait perdu le contrôle de son camion en tentant, semble-t-il, de récupérer un objet tombé à ses pieds. Il est ce soir mis en examen. Cette preuve, si l'on en avait besoin, de l'ampleur de la crise économique, les bilans publiés ce matin par les grandes entreprises sont catastrophiques. Pour certaines, c'est un record, comme Renault, près de 7,5 milliards de pertes au premier semestre, ça n'était jamais arrivé. Total également subit de plein fouet la crise pétrolière et publie son premier résultat dans le rouge depuis 2015. La SNCF annonce pour sa part un manque à gagner de 2,5 millions d'euros en raison de la pandémie, mais aussi en raison des grèves de l'hiver dernier. Journée très compliquée donc pour l'économie mondiale. Les États-Unis entrent officiellement en récession après deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. Journée noire pour l'Allemagne également. Le PIB allemand chute de 10%. C'est la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Face à ces mauvais chiffres, toutes les places boursières sont en baisse ce soir. En France, le nouveau dispositif de chômage partiel entrera en vigueur demain. Le décret a été publié tout à l'heure. Ce dispositif autorise les entreprises à baisser le temps de travail de leurs salariés jusqu'à 40%. Toutes ces heures chômées seront payées par l'État. Les salariés toucheront 84% de leur salaire net. Les élections américaines auront-elles lieu à l'automne prochain? Donald Trump remet en cause ce calendrier. Il dénonce la technique du vote par correspondance qui pourrait s'appliquer en raison de l'épidémie afin d'éviter les contacts dans les bureaux de vote. Cette technique ferait de cette élection, je cite, la plus inexacte et la plus frauduleuse de l'histoire, selon Trump, qui propose donc un report. Il évoque cette possibilité sur Twitter, son réseau social fétiche. On y revient dès le début du journal de 18h. Deux infos en basket, ce sera la reprise ce soir en fanfare de la NBA aux États-Unis. Les matchs étaient interrompus depuis le 11 mars dernier. Le calendrier est serré, il va falloir disputer 88 matchs en 15 jours pour rattraper les retards. Et puis en basket, chez les femmes et en France, la saison reprendra le 26 septembre prochain. Enfin, c'est parti pour un long voyage, arrivée prévue, si tout va bien, dans 7 mois, le 18 février 2021, c'est très précis. Le robot Perseverance a décollé ce midi de Cap Canaveral en Floride, direction la planète Mars. Cette sonde a pour mission de rechercher des traces de vie sur la planète rouge. 17h et bientôt 3 minutes sur Europe 1. C'est le retour de Philippe Googler.
Merci Marguerite Lefebvre. Mars, ça c'est le voyage ultime. Un jour, on aura peut-être Jean-Bernard Carrier qui nous donnera les bons tuyaux pour bien profiter de Mars.
Les pépites surtout. Oui.
Merci Marguerite. Prochain rendez-vous avec l'info à partir de 18h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et si on partait sur Europe 1, c'est l'été, c'est le moment parfait pour lâcher prise, pour tout oublier. Chaque après-midi, je vous emmène aux quatre coins de la planète. Décollage maintenant pour la Russie.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
S'il y avait un seul train mythique, ce serait celui-là.
Уважаемые пассажиры, во избежание очередей...
Je vous propose de partir aujourd'hui dans le Transsibérien. Alors le Transsibérien, je l'ai pris lors d'un de mes tournages des trains pas comme les autres, et à peine arrivé à la gare de Iaroslavl à Moscou, c'est déjà mythique. Je me dis que je suis en Europe, à Moscou, et que de cette gare, je peux partir en train pour l'Extrême-Orient. De cette gare, vous pouvez prendre un ticket et un train pour Pékin. Pékin, oui, carrément. Ou Ulan-Bator, si vous voulez, en Mongolie. Et cette gare, c'est comme une porte magique. C'est vertigineux. Alors, au guichet, je demande quelle est la destination la plus lointaine, la plus éloignée que je pourrais atteindre d'ici. Et alors, la guichetière russe, ben, elle répond pour la Russie. Et elle me dit, ben, en Russie, la destination la plus éloignée de Moscou, c'est Vladivostok. Et c'est tout au bout de la ligne, c'est à 9258 km. 9258 km. Donc évidemment, je lui demande combien de temps ça prend. Alors elle me dit, bon, bah alors, vous avez le train qui part ce soir. Donc là, c'est 6 jours et 13 heures. Et demain matin, vous pouvez prendre suite demain matin si vous voulez. Là, c'est 6 jours et 9 heures. Ça, c'est vous qui voyez. Et c'est énorme, c'est gigantesque. Et alors que je vois bien que pour la dame au guichet, c'est juste normal. C'est l'ordinaire. Alors en réalité, je découvre qu'il n'y a pas qu'un seul transsibérien, il y a plusieurs lignes. Par exemple, il y a celle qui va donc direct vers Vladivostok, ou une autre qui bifurque vers la Mongolie et la Chine. Ensuite, sur ces lignes, il y a toutes sortes de trains qui vont du plus luxueux jusqu'au plus simple. Et moi, je choisis le transsibérien des Russes, le transsibérien de tous les jours, de base, fonctionnel, avec les couchettes en sky. Un train assez classique, genre corail, mais avec des couchettes, donc rien de spécial. Mais je me rends compte que ce qui change tout à bord, c'est l'ambiance. Dès que je monte, je vois que tout le monde se parle. Quand on part pour 5 ou 6 jours d'affilée, on a intérêt à être ami avec ses voisins. Donc je me pose là dans un compartiment qui était occupé par quelques passagères qui viennent à peine de se rencontrer et qui sont déjà très copines. Et dans le compartiment, il y a pas mal de ballons de toutes les couleurs qui flottent, il y a des guirlandes et puis une petite musique russe assez joyeuse. Donc je leur demande pourquoi tous ces ballons. Et une jeune fille me répond, bah, c'est pour l'anniversaire de mon petit ami, je vais lui rendre visite. Et donc c'est pour installer une petite ambiance de fête. Et il est où votre copain, je lui demande. Ben elle répond, ben, à Irkoutsk, c'est à 5000 km. Donc en voiture, j'en aurais eu pour 5 jours, alors qu'en train, c'est en 4 jours. Donc j'ai pris le train. Et donc je lui demande, mais vous allez passer 4 jours enfermés dans ce compartiment? Et là, je vois son visage un peu étonné. Ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous surprend? Et elle me répond, en Russie, on est habitué, vous savez, aux grandes distances. Ici, les espaces sont tellement grands que tout ça est habituel. Et puis on rencontre plein de gens que peut-être un jour on ira voir en faisant des nouveaux voyages. Et le Transsibérien, c'est ça. C'est une ambiance. Et au bout de la voiture, il y a une petite échoppe avec une marchande dont je ne sais pas très bien si elle est plus marchande ou plus contrôleuse, elle vend des bonbons et quelques accessoires de toilette et de thé. Alors je discute un peu avec elle et elle est un peu triste. Car chaque départ, pour elle, c'est un long périple de 15 jours qui s'annonce. 15 jours aller-retour, sans sortir du train et sans voir sa famille. Et voilà, ça la rend un peu triste et elle voit ça comme un long voyage en sous-marin. Alors, en lisant le dépliant de la compagnie, j'ai un choc parce que je découvre que sur la ligne, il y a environ 900 gares, 900 arrêts. Je me dis que quand même, ça va être un peu long. Et en fait, le transsibérien, c'est un exercice de lâcher prise. Il faut juste l'accepter, changer de rythme. C'est une certaine lenteur, on roule à 60 km/h très souvent. C'est une tasse de thé, des fenêtres avec des petits rideaux qu'on écarte de temps en temps pour observer le paysage. Paysage toujours un peu semblable, il y a beaucoup de bois de bouleau, de plaines et de bois de bouleau. Il y a une sorte de douce monotonie qui vous plonge dans la rêverie. Le voyage en transsibérien, c'est surtout un grand voyage intérieur.
16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et nous allons partir encore plus profondément dans la Russie, celle qu'on connaît moins, la Sibérie, dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Voilà.
Tous les après-midi sur Europe 1, un grand voyage. Aujourd'hui, nous sommes en Russie avec mes amis voyageurs Nathalie et Lal.
Oui, bonjour, bonjour.
Emmanuel Jarry.
Oui, je suis là.
Notre gourmande. Et puis, de bons plats. Hein.
Oui.
Et puis,
j'y pense le contraire.
Et puis, Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet, la Russie. Pouvez-vous nous faire une petite cartographie générale ?
Bah, ça va être très simple, hein, la cartographie de la Russie. C'est le plus grand pays du monde. Déjà qu'on trouvait l'Australie très grand, bah, alors là, c'est encore plus grand. 17 millions de kilomètres carrés, 9000 kilomètres d'est en ouest, c'est gigantesque. 3000 kilomètres de large, du nord au sud, si on veut. Et surtout, moi, ce qui me fascine le plus, c'est qu'il y a entre 9 et 11 fuseaux horaires. En France, on n'en a qu'un seul, donc c'est vite vu. En Europe, on n'en a que deux. Là, c'est de 9 à 11. Et en fait, il faut dire que la Russie, c'est une fédération, en fait. Et c'est plein d'états différents qui sont agrégés les uns aux autres. Et puis, il y a un fleuve que j'aime beaucoup, c'est juste pour le plaisir de le citer. Ça vous plaire, ça, Nathalie ? L'un des très grands fleuves de Russie s'appelle le fleuve Amour.
Mais j'ai un prénom russe, Jean-Bernard, vous savez.
Voilà.
Alors, merci beaucoup, Jean-Bernard. Nous sommes en ligne avec quelqu'un qu'on appelle le voyageur du froid. C'est Nicolas Vanier, aventurier, écrivain, réalisateur de cinéma. Nicolas Vanier, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez fait beaucoup d'explorations, beaucoup de voyages incroyables en Sibérie. La première, c'était là, il y a 30 ans. En tout, vous avez parcouru, je crois, plus de 20 000 kilomètres en Sibérie. Faut vraiment aimer ça. Alors, la Sibérie, on imagine souvent un grand nord glacé, des chiens de traîneau. Mais en fait, c'est pas que ça. Tout à l'heure, quand je parlais dans le Transsibérien, par la fenêtre, si on y va à la belle saison, on voit pas ça. On voit de la campagne plutôt verte, des champs de bouleau, un paysage assez monotone. Mais ça dépend des endroits. Au niveau du lac Baïkal, c'est plus montagneux, il y a plus de relief, c'est magnifique. La Sibérie, c'est vraiment gigantesque.
Bah, c'est très grand, très varié. C'est effectivement un pays où on dit que l'hiver dure 12 mois et que le reste, c'est l'été. Mais c'est assez faux parce que finalement, c'est vrai que l'été est court, mais il peut être excessivement chaud. Et je me souviens notamment lors d'une expédition qui m'a fait traverser comme ça pendant 2 ans toute la Sibérie. Au-delà du cercle polaire arctique, on a eu jusqu'à 38 degrés la journée avec des nuits d'une chaleur incroyable. Ouais. J'ai pratiquement jamais autant souffert de la chaleur que dans l'Arctique sibérien. Il y a d'ailleurs dans un village que j'ai traversé le record mondial de l'amplitude thermique avec effectivement des températures proches de moins 70 et de plus 40 en été. Donc c'est un pays des extrêmes,
moins 70.
Pas que des extrêmes. avec pas que des extrêmes dans le froid, des températures de moins 70, de moins 60 très courantes. Nous, on a tourné un film Loup dans les montagnes Verkhoyansk et nous avons été une semaine entière à des températures aux alentours de moins 56, moins 57. Lorsque j'ai traversé la Yakoutie en traîneau à chien, on était constamment pendant un mois avec des températures où le plus chaud a été moins 55. Donc, effectivement, des températures...
Parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde ne vivra pas tous les jours. Qu'est-ce qu'on ressent physiquement quand il fait moins 70 ?
Ben écoutez, déjà, ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on est vraiment bien équipé, c'est des froids qui se supportent beaucoup mieux, en tout cas qu'on ne l'imagine, parce que c'est vrai que ça fait frémir, mais c'est des positions généralement très anticycloniques lorsqu'il y a des froids aussi intenses, c'est-à-dire que pour donner une image, la fumée qui sort des maisons ou de la tente, elle monte tout droit dans le ciel, il n'y a pas un seul souffle de vent, et donc c'est un froid qui est très sec, et la bêtise qu'on fait souvent, c'est de comparer par exemple un moins 3, moins 4 humide parisien à moins 50, parce que c'est pas du tout le même froid. Même si, effectivement, au-delà, on va dire, de moins 40, moins 45, on rentre quand même dans des zones où il faut faire très attention, où le métal brûle, où il faut pas exposer plus de quelques minutes un morceau de peau au froid. Donc, on rentre effectivement dans ce qu'on va appeler des températures extrêmes, où il faut faire très attention.
La Sibérie, pour moi, c'est quelque part, il y a une poésie de l'isolement. C'est-à-dire que quand on est dans ces villages perdus, avec ces maisons de bois un peu de couleur, ces rues en terre battue, défoncée, une vieille voiture un peu rouillée qui traîne d'un coin, des poules qui passent, des hommes souvent habillés un peu en treillis comme ça. C'est à la fois effrayant quand on n'y va pas souvent, quand on y va pour la première fois, et en même temps extrêmement attachant. Comment vous expliqueriez-vous cet attachement sibérien ?
Ah ben c'est ce qu'on appelle l'âme russe, et je dirais encore plus cette âme sibérienne qui fait que ça ne m'est jamais arrivé en 3 ou 4 ans de voyage continu de ne pas être accueilli à bras ouverts dans un village ou lorsque au détour d'un bois ou d'une montagne, j'ai vu un petit peu de fumée au-dessus d'une cabane. Donc effectivement, il y a comme ça dans cette Sibérie sauvage que j'ai traversée, en tout cas d'ouest en est et du sud au nord, dans son intégralité, dans cette Sibérie sauvage, des petits villages éloignés les uns des autres, des havres de chaleur où l'accueil est absolument incroyable. Je raconte souvent, et on a du mal à me croire, mais lorsque j'ai traversé en traîneau à chien toute la Sibérie, depuis le lac Baïkal jusqu'à Moscou, la chose était connue par les radios, etc. Et j'étais particulièrement attendu dans les petits villages où ils s'attendaient à me voir arriver. Et il m'est arrivé plusieurs fois, le soir, tard ou haut, d'arriver comme ça et d'être dans la nuit avec mes chiens de traîneau, de voir au loin le village à 1 ou 2 kilomètres, les lumières, les quelques lumières que l'on voit d'un village dans ces nuits sibériennes, et de m'arrêter et de dormir dehors à des températures parfois de moins 40, moins 50, parce que je savais que si j'arrivais dans le village, j'allais devoir pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures manger, parler, boire, ce qui est extraordinaire, mais ce qui parfois, lorsqu'on a 14, 20 heures de traîneau dans les pattes, n'est plus jouable. Et il m'est arrivé par, on va dire presque par paresse par moment, de dormir dehors plutôt que de dormir dans la chaleur tellement, et j'ai presque envie de dire trop accueillante, de ces villages où j'ai des souvenirs absolument incroyables de ces accueils qu'on voit qu'en Sibérie.
Ah, c'est incroyable. Merci beaucoup Nicolas Vanier. Surtout, vous restez avec nous. On continue à découvrir la Sibérie avec vous dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait tous les jours entre 16h et 18h, un grand voyage. Nous sommes en Russie aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir en ligne avec nous Nicolas Vanier. Alors on a parlé de la Sibérie, mais la porte d'entrée de la Sibérie, le point de départ du Transsibérien, c'est évidemment Moscou, la capitale. Et Moscou est quand même une des rares villes au monde où on vous dit tout de suite, alors le truc à visiter, c'est le métro. Voilà, il n'y a pas beaucoup de villes, franchement, on vous dit ça. Et c'est vrai que le métro de Moscou, en lui-même, c'est un monument. Il a été construit sous Staline, en gros dans les années 1930-1950. Et donc l'idée à l'époque, c'était de faire de ce lieu qui accueille le peuple un palais du peuple. Et c'est vrai que le résultat est assez dingue. À l'époque, il fallait montrer au monde toute la puissance, toute la magnificence soviétique. Bilan, vous avez des stations splendides, alors certaines de style baroque, avec des hauts plafonds, avec des dômes géants, avec des lustres énormes, majestueux. Vraiment, dans certaines stations, vous avez l'impression d'être dans un palais. Et puis dans d'autres, il y a un style plus art déco. Et globalement, c'est un festival de mosaïques à la gloire des travailleurs, de fresques, de niches, de vitraux et de statues de bronze aussi. Beaucoup de statues de bronze dans certaines stations. La plus populaire, c'est celle d'un soldat russe, une statue du soldat avec son chien. Et vous savez qu'en Russie, on est assez superstitieux. Et il y a énormément de moscovites qui, le matin, en allant au boulot, dans le métro, caressent le nez du chien. Parce qu'il paraît que ça porte chance. Et j'ai vu, le nez du chien, il est usé, le nez du chien. Je l'ai caressé aussi, oui, oui. Et il y a énormément de gens, mais puisque je suis avec vous, Nathalie, c'est que ça marche.
Ah, merci.
Vous avez à peu près un usager sur deux qui caresse le nez du chien. C'est vraiment une tradition très importante, sachant que c'est quand même le métro, un des métros les plus fréquentés au monde. Il y a 9 millions de passagers par jour.
9 millions de caresses, c'est pas mal. Par jour,
c'est pas mal. Divisé par deux, autant, un passager sur deux. Et donc, le métro est vraiment magnifique. Si un jour vous avez la chance d'aller à Moscou, allez-y. Et il est très profond. En général, il est à 30 à 50 mètres de profondeur. Et certaines stations ont même été utilisées comme abri contre les bombes et les attaques chimiques pendant la Seconde Guerre mondiale. La plus profonde, elle est à 84 mètres, soit à la hauteur d'un immeuble de 28 étages.
Ah, c'est énorme.
C'est énorme. Du coup, je vous avoue que c'est pas très pratique parce qu'il faut descendre.
Ah oui.
Puis après, il faut remonter. Faut
pas mais c'est des escaliers.
C'est des escalators. Ah oui. Ah parfois...
Pas que ça tombe en panne. Hein.
Non, c'est vrai. Non, mais ce métro est une merveille. Et la visite coûte un ticket de métro.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Nicolas Vanier, vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes écrivain, réalisateur, explorateur. Vous avez fait plus de 20 000 kilomètres en Sibérie. Et Moscou, pour vous, ça doit être le soulagement parce que je crois qu'après une longue odyssée, vous avez fait une arrivée avec vos chiens sur la Place Rouge. C'était en 2006, c'est ça ?
Oui, en plus qu'un soulagement, c'est un souvenir absolument incroyable, un grand hommage que la Russie m'a fait et a fait à cette expédition qui m'a emmené à travers les Sibéries. Et effectivement, la Place Rouge, fait rarissime, a été enneigée pour l'occasion, parce qu'il faut savoir que même en pleine tempête de neige, vous ne verrez jamais de neige sur la Place Rouge, qui est constamment déneigée par une armée de balayeurs.
Ah,
et donc,
oui.
La mairie de Moscou, le gouvernement m'a fait l'honneur voilà, d'aménager un grand tapis de neige pour que je puisse arriver jusqu'au cœur de la Place Rouge avec mes chiens de traîneau, avec l'armée rouge qui était là, qui a effectué toute une haie d'honneur. Enfin, ça a été un moment très, très, très émouvant, d'autant plus que, voilà, je n'avais pas vu les miens depuis longtemps. Ils étaient tous là. Ça a ouais. été quelque chose d'assez incroyable que cet accueil que m'a fait la Russie, que ouais. m'a fait la Russie, en sachant que c'est vraiment quelque chose d'assez unique que cette autorisation qui m'a été donnée pour un étranger ouais. D'arriver comme ça sur la Place Rouge.
Ouais. Il y a eu le pain et le sel, selon la tradition ?
Bien évidemment, comme dans la plupart des petites villes que j'ai eu l'occasion de traverser au cours de ce grand voyage. Donc ça fait partie, bien évidemment, avec la vodka, hein, qu'il faut boire une fois, deux fois, trois fois, des passages obligés et très sympathiques.
Alors, on a parlé de la Sibérie, de vos sensations en Sibérie tout à l'heure. Votre Moscou à vous, ce serait quoi ? Qu'est-ce que vous aimez dans cette ville ?
Je réponds toujours la même question lorsque on me demande ce que j'aime en Sibérie, ce que j'aime
à Moscou.
Moscou, je dirais ouais. que c'est les gens. C'est les gens, c'est d'aller à la rencontre des gens. Moi, j'ai vraiment une affection très particulière pour ces hommes, ces femmes qui apparaissent d'un premier abord comme ça, peut-être un petit peu rustres, un petit peu rudes, mais qui sont des gens généralement très très cultivés, avec un sens voilà, de l'honneur, une parole qui est une véritable parole. Je me souviens comme ça, avec émotion, d'un contrat que nous avions signé en 1990 pour ma traversée de la Sibérie, un contrat très important, et nous étions sortis dehors et la personne m'avait dit, eh bien, on va signer dans la neige. Et c'est la façon dont les Sibériens scellent un accord qui est indestructible. Et j'ai trouvé ça très beau. Et ça résume assez bien ce que sont les Russes, ce que j'aime chez ces gens qui ont un regard à la fois doux et droit, même si, bien évidemment, parfois, on peut, et notamment, je pense à Moscou, tomber dans les travers de la ville avec tout ce qu'on peut imaginer. Quoi. Ouais.
Merci beaucoup, Nicolas Vanier. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va évoquer la grande Catherine, Catherine II de Russie, et comme elle sera évoquée par Nathalie Elal, ça risque d'être un petit peu olé-olé, je vous préviens. À tout de suite.
Europe 1, Philippe Googler.
Ah, nous sommes en Russie. Bien en Russie. Comme tous les jours sur Europe 1, entre 16h et 18h, un grand voyage. Voici Nathalie Elal. Et la femme dont vous allez nous parler maintenant, la femme russe, est un cas.
Ah oui, un cas d'anthologie. On peut dire d'ailleurs, sans se tromper, qu'il s'agit de l'impératrice la plus nymphomane de l'histoire.
Alors bon, oui, c'est officiel, il y a un classement.
Je vous le dis tout de suite. Alors, Catherine II de Russie, surnommée par ses contemporains la Grande Catherine, et par les plus méchants, la Messaline du Nord.
Oui, là, ça
vous met tout de suite dans le ton. Hein. Alors, elle n'est pas russe, hein. C'est une princesse allemande, petite princesse allemande, intelligente, cultivée, qui est mariée à 16 ans à Pierre de Russie. Alors lui, c'est un instable, hein, c'est un alcoolo, sadique, il adore torturer les chats et les chiens.
Oh.
Et par-dessus le marché, comme si ça ne suffisait pas, bah, il est impuissant. Alors le problème, c'est
souvent lié.
L'émission sexo, c'était avant, Philippe.
Alors le problème, Philippe, c'est que si l'empereur est faiblard, sa femme, elle a de l'appétit à revendre. Donc elle va vite trouver une solution. Faire détrôner son mari avec la complicité d'un amant et puis le faire étrangler en prison en faisant passer sa mort pour, tenez-vous bien, une colique hémorroïdaire.
Juste pour quelle drôle d'idée.
Bah oui, il fallait bien trouver quelque chose.
Bah, je sais pas, j'aurais pas pensé à ça comme
elle avait ses raisons.
Tout ça pour mieux diriger l'État et se consacrer à ses amours. Et d'ailleurs, au cours de son règne, elle jette son dévolu, la gourmande, sur 22 amants.
Oh bah,
officiel, hein, officiel, ah, oui. Emmanuel, je vous calme. Ouais. Hein, parce que officieusement, il y en avait peut-être beaucoup plus.
Voilà, donc elle a du tempérament, on a bien compris.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, de l'appétit.
Oui, c'est ça. Alors pour l'époque et les mœurs de l'époque, oui, enfin c'est une femme libre en fait. Hein.
Ouais.
Alors il y a des histoires qui sont purement des légendes. Par exemple, on a raconté qu'elle avait l'habitude de faire défiler devant elle les soldats de sa garde en érection. Enfin, ça, c'est pas vrai, c'est une légende. Elle a quand même une libido débordante. Par exemple, quand elle jette son dévolu sur un homme, tenez Emmanuel, eh bien, plus elle vieillit, plus elle les choisit beaux et jeunes.
Bah oui.
Donc, elle le fait examiner sous toutes les coutures par son médecin, quand même, on sait jamais. Puis, elle le fait tester quand même avant par une de ses dames d'honneur.
Elle le fait tester.
Le fait tester.
Pour savoir si c'est un bon amant.
Bah, oui, alors, si le rapport est positif dans tous les sens du terme, hein, le rapport, évidemment, elle installe l'heureux élu le soir même dans un appartement contigu à sa chambre pour la voir sous la main. Et la légende raconte qu'elle avait fait aménager un cabinet de débauche.
Attends, parce qu'elle l'installe à sa côté pour la voir sous la
main.
Elle
a un immense appartement, c'est des appartements de la souveraine.
Mais c'est pour s'en servir si jamais elle a une envie.
À disposition.
Ah, ouais.
Tiens, viens par ici, toi, c'est ouvert.
D'accord.
Voilà.
On imagine la scène, vous le faites très bien, Nathalie.
Oui, ah bon, vous trouvez ? J'étais Catherine dans une autre vie. Donc, elle a un cabinet de débauche garni d'accessoires coquins, avec notamment une table sculptée de motifs si explicites que je ne peux pas les décrire ici. Mais c'est aussi une grande amoureuse. Elle a eu une passion pour Grigori Potemkin qu'elle rencontre à l'âge de 44 ans. C'est une liaison courte, mais il va rester son conseiller, son ami jusqu'à sa mort. Et même, tenez-vous bien, il va l'approvisionner en étalon performant.
Non, mais c'est pas possible.
Mais si, c'est vrai. Tout ce que je raconte est absolument vrai. Et dernier grand amour de l'impératrice Cougar, moi je l'appelle comme ça, c'est Platon Alexandrovitch Zubov, son dernier favori. Il a 27 ans, elle en a quand même 38 de plus. Quand elle disparaît en 1796 à 67 ans d'une hémorragie cérébrale, elle a collectionné en 34 années de règne, non seulement les amants, mais aussi, il faut bien reconnaître ça, des des œuvres d'art, près de 4000 tableaux visibles au musée de l'Ermitage.
Ah bah dis donc, quelle histoire.
Sacré nana.
Dis donc, Nicolas Vanier, vous connaissiez l'histoire ? Vous êtes un explorateur.
Ah, je connaissais de loin cette histoire, oui. Mais c'est
là,
vrai
vous la connaissez de près. Hein.
Voilà, dans les petits villages que j'ai traversés, c'est beaucoup plus difficile d'être une impératrice couguar, parce que tout se sait.
Ouais.
Et donc, les méthodes, on va dire, à la fois pour pouvoir tromper sa femme ou son mari, ou pour pouvoir faire payer l'infidélité, est parfois assez poussée, on va dire, et étrange.
Ah oui, qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous pouvez détailler ?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a une technique qui fonctionne assez bien, qui est lorsque on veut éliminer quelqu'un parce que voilà c'est un concurrent ou parce qu'il a trompé ouvertement et devant tout le monde. Une bonne technique qui fonctionne assez bien, dont j'ai d'ailleurs été le témoin dans Ou de village, c'est qu'on fait boire la personne suffisamment pour pouvoir à un moment donné lui donner de la vodka à moins 40, moins 45, ce qui occasionne des dégâts intérieurs qui sont irréversibles. Oh. Et c'est une mort extrêmement douloureuse, compliquée.
On appelle ça l'antigène.
Et il y a une méthode. Alors, il y a une autre méthode qui est moins horrible, mais qui consiste aussi à faire boire. Et suffisamment pour que la personne inconsciente s'endorme, on la met dehors. Et au bout de quelques minutes, à moins 40 ou moins 50, voilà, la personne rentre dans une espèce de coma irréversible. Et voilà les deux méthodes que je vous conseille, qui fonctionnent assez bien si vous allez en Sibérie et que vous avez des velléités d'être
débarrassé.
Voilà.
Eh ben dis donc, merci Nicolas, c'est super, on finit sur une belle, c'est chaleureux la Sibérie, accueillant.
Ben, vous l'avez cherché un peu avec votre histoire.
Je crois qu'on va retourner à la Côte d'Azur finalement.
Merci beaucoup Nicolas Vanier d'avoir été avec nous pour nous faire partager votre Sibérie. Je rappelle que votre dernier roman policier est paru au mois de juin aux éditions IXO et son adaptation au cinéma sortira le 7 octobre prochain. Merci beaucoup et puis...
Merci, à bientôt.
À une prochaine, j'espère, sur la Sibérie. Vous êtes passionnant. À bientôt. À suivre sur Europe 1, la cuisine sibérienne et russe avec Emmanuel Jarry et toute la bande de voyageurs. À tout de suite. Et si on partait sur Europe 1 en Russie aujourd'hui, le plus grand pays du monde? Alors, quand on s'intéresse aux saveurs de la Russie, je me demande bien par quoi vous commencez, Emmanuel Jarry, parce que c'est vaste.
Vaste programme. Et effectivement, on l'a dit là dans l'émission, c'est le plus grand pays du monde. Donc on imagine qu'entre Mourmansk, près de la frontière finlandaise ou Vladivostok en face du Japon, on ne mange pas les mêmes choses.
Ouais. Quoique, il y a parfois une certaine monotonie en Russie.
Ah oui.
Et parfois, je suis sûr que sur 3 ou 4 000 kilomètres, c'est les mêmes paysages.
Vous aimeriez changer un petit peu.
Bah, des fois.
Oui, alors il y a quand même des influences asiatiques. On le voit dans les raviolis comme les pelmeni ou alors des influences scandinaves avec tous les poissons fumés, les œufs de poissons. Etc. Mais il y a quand même quelque chose, une unité qui est russe où qu'on soit, c'est le thé, la vodka, on l'a déjà un petit peu évoqué là avec Nicolas Vanier. Et en fait, ces boissons, par la façon dont on les boit et parce qu'elles représentent, elles apportent cette unité nationale culinaire.
Alors, on a vu comment on buvait la vodka en Sibérie, c'est-à-dire quand on la fait boire, quand on la met à moins 40 et elle ne gèle pas évidemment, hein, parce qu'il y a de l'alcool
dedans.
Et on la fait boire à son ennemi, ce qui est horrible. Et vous faites comment, vous ?
Alors voilà, on peut, avec des zakouskis, vous savez, c'est ces petits assortiments, ces petits plats qu'on met sur la table. D'ailleurs, c'est assez joli parce que ça forme des tableaux quand on est dans des beaux restaurants parce qu'il y a plein de couleurs.
Ouais.
Ça peut être des toasts avec des œufs de saumon orange, du vert si c'est des légumes, du noir si c'est du caviar, pourquoi pas, ou d'autres œufs de saumon. Et donc voilà, ça fait plein de couleurs. Mais ce qui est intéressant, donc, en fait, quand on mange des zakouskis, c'est pour boire la vodka. Parce qu'on boit un petit peu et on croque après.
Donc on mange pour boire et non l'inverse.
Exactement.
D'accord.
Non, parce que oui, on mange pour boire, voilà. Donc on boit un verre de vodka et après on grignote un petit quelque chose. Donc ça, c'est les zakouskis. Mais les zakouskis, c'est une façon aussi d'accueillir les personnes. Et par exemple, si vous allez au fin fond de la campagne, même s'ils n'ont rien, ils vous poseront trois fois rien sur la table pour vous donner quelque chose. Donc ça peut être une betterave coupée en morceaux, un malosol, vous savez, ces gros cornichons, ou alors même un oignon coupé en tranches. Parce que le but, c'est de donner ce qu'on a. Nicolas Vanier l'a dit, c'est vraiment de poser quelque chose sur la table et d'accueillir pour boire aussi, pour partager la vodka. Ça, c'est très important.
C'est très important. Et le thé ?
Alors le thé, effectivement, les Russes ont découvert le thé au XVIIe siècle, qui a été rapporté de Chine par des émissaires qui l'ont offert au tsar. Et c'est progressivement devenu une boisson très importante en Russie, à tel point qu'au XIXe siècle, on est dans un journal russe, a écrit « Le thé est presque aussi nécessaire aux Russes que l'air ».
Ah oui ?
Et aujourd'hui, je crois que c'est le deuxième pays le plus consommateur après la Chine. Enfin, c'est un important... les Russes sont vraiment des grands buveurs de thé.
D'ailleurs, dans le Transsibérien, on vous distribue du thé presque à volonté.
Tout le temps. Oui, voilà. Alors, les Russes, en fait, ils ont une façon bien à eux de boire le thé, d'abord longtemps, longuement, de partager d'ailleurs de la poésie, des chants autour du thé. C'est pour ça qu'on prend son temps et on prépare un thé noir très fort. Et en fait, on le rallonge avec de l'eau qui boue en permanence dans le samovar. Vous savez, c'est magnifique. Et alors, souvent, d'ailleurs, elles sont en argent ou elles sont décorées. Et donc, chacun peut rajouter de l'eau à sa guise. Et traditionnellement, le thé en Russie était accompagné d'agrumes, comme le citron, la bergamote, pour neutraliser les tanins et l'astringence. Et au fil du temps, l'élaboration de ces thés s'est faite par ajout d'huile essentielle, d'agrumes. Et donc aujourd'hui, quand on parle de thé goût russe, c'est ces thés qui sont parfumés comme ça aux agrumes. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que pour boire ces thés très forts, il faut les sucrer. Et la façon dont on sucre, c'est qu'on pose, enfin on coince entre ses dents du sucre, comme ça, on le garde et on boit le thé à travers et en passant.
Ça a l'air un peu compliqué.
Mais non, pas du tout. Et en passant le sucre. Bah si, en passant le sucre, en fait, le thé se sucre.
Mais si on a les dents creuses, on fait comment ?
Mais qui a les dents creuses ? Les dents écartées, vous voulez dire ?
Non, creuses.
Bon, les dents devant, elles sont rarement creuses.
Et en fait,
mais si on a une conversation à tenir, c'est difficile.
Alors après, j'imagine qu'on l'enlève. Mais vous voyez, c'est parce qu'on va pas tremper le sucre. Bah alors ça, on met pas le sucre dans le thé. Voilà, c'est une façon de sucrer aussi légère, mais ça vient d'une pratique. Autrefois, on sucrait en fonction de la hiérarchie sociale. Donc, quand on était très pauvre, les moujiks, vous savez, ces paysans assimilés à des serfs, ils pendaient un sucre au-dessus de la table et se contentaient de regarder le sucre pour boire le thé. Donc, c'est l'imagination fait le reste. Si on était dans des classes intermédiaires, on suçait à tour de rôle ce sucre qui était pendu au-dessus de la table.
Ouais, c'est pas très geste barrière, ça.
Non, mais c'est bon, j'y ai pensé.
Ne le faites pas chez vous, mais ça pourrait être dangereux.
Là, on parle d'une autre époque. Et ensuite, les plus aisés mettaient du sucre dans leur tasse. Et on dit que le tsar, vérité ou légende, ça je ne sais pas, se servait du thé dans une coupe qui était taillée dans un pain de sucre. Donc là, c'est... Ouais, voilà.
Ah ok, incroyable. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez une grande recette russe ?
Alors oui, la fameuse le bœuf stroganov. On dit toujours stroganov, c'est stroganov.
C'est Stroganov. Ah oui,
ouais. Et en fait, c'est la recette. Bon, alors c'est vrai qu'elle est emblématique russe. Vous parliez par exemple de la salade niçoise tout à l'heure. Ouais. Là aussi, quand on parle d'un plat russe dans le monde, c'est le bœuf stroganov qui est cuisiné partout, on le trouve partout. Et en fait, à l'origine, c'est un ragoût de bœuf à la crème avec des épices, du paprika, de la moutarde. Mmh. Et cette grande recette russe a été mise au point par un chef français.
Ah bon ?
C'était le chef du comte Pavel Stroganov. Il a utilisé des techniques françaises pour mariner, braiser et ensuite accommoder le bœuf à la mode russe. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, ça raconte aussi l'histoire de la cuisine française, c'est que les grands chefs dans le monde entier étaient français. De la même manière qu'on pense, par exemple, aux verriers, ils étaient vénitiens. Vous voyez, on fabriquait le verre à Venise, en France, c'était des chefs.
Donc, c'était un chef français d'un comte russe.
Voilà, tout à fait. D'accord. Et en fait, mais ça, on retrouve comme ça dans l'histoire énormément de chefs français dans les noblesses en Europe ou ailleurs. Et en fait, jusqu'en 2012, au Kremlin, le chef était français.
Ah ouais.
Ouais, et c'était Jérôme Nigaud, c'était le chef de Dimitri Medvedev. Et en fait, il y a cette grande, c'était la diplomatie aussi. On plaçait ces chefs à l'étranger. Et, ça raconte quelque chose du fait que la France, c'est le grand pays de la restauration et des chefs. Ouais. Nathalie ?
Non, je crois qu'on mettait de la crème aigre, en fait. C'était un peu la particularité de la Russie. On utilise la crème aigre et non pas la crème comme on la connaît ici.
Ah, vous voulez dire dans le bœuf stroganov ?
Ouais.
Ah, merci.
Ouais.
Mais faites la compétition des cuisinières, là. Ça ne rigole pas. Là.
Mais non, c'est vrai, c'est vrai, l'ambiance s'est tendue tout à coup.
Les pelmenis sont servis les raviolis avec de la crème.
C'est le truc des Russes.
Non, non, c'est une vraie. Ouais, tout à fait.
N'en parlez pas de pelmenis, s'il vous plaît. C'est l'heure du goûter.
Merci beaucoup, les amis. À tout de suite sur Europe 1 pour tous les bons plans de Jean-Bernard Carrier afin de découvrir la Russie.
16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
On est bien, on est en Russie.
Vous avez envie de danser, Philippe ?
Ah ouais, on est léger là. Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. On a parlé tout à l'heure du transsibérien. Alors c'est un rêve pour beaucoup de gens.
Ouais.
Côté pratique, comment ça se passe ?
Je veux déjà rassurer tous les auditeurs, les auditrices, sur ce fameux transsibérien. On n'est plus dans les années 80, on n'est plus à l'époque soviétique. En fait, prendre un billet de transsibérien, c'est devenu extrêmement simple, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est moderne, on peut même acheter un e-ticket, un e-billet, sur la Russian Railways, c'est la RZD, c'est l'équivalent de la SNCF. C'est très très simple, c'est facile, le site est en anglais, avant tout était en russe, vous imaginez un petit peu les difficultés. Donc la version anglaise du site est très bien réalisée, on peut réserver sa couchette, réserver son itinéraire, calculer son tarif et télécharger son e-ticket sur son smartphone. C'est plus du tout la vieille école comme c'était à l'époque de l'Union soviétique, évidemment.
Alors, c'est cher, justement.
Alors, ça dépend du type de couchette, on va y venir. Ouais. Ça dépend vraiment du type de classe de train.
Qu'est-ce
et de
qu'il y a comme choix de classe ?
Alors, justement, ça, c'est vraiment le grand charme de ce transsibérien, c'est que vous avez plusieurs types de classes. Alors, je passe vite sur la première classe, c'est la plus confortable, deux lits. Voilà, donc c'est pour ceux qui recherchent un petit peu d'intimité, vous serez bien tranquille, vous êtes un petit peu coupé du reste du wagon. Ouais. Mais on est, voilà, pour un couple, c'est idéal. La deuxième classe, c'est la coupée, ça s'appelle la coupée. Alors là, c'est un wagon qui fait 9 compartiments avec des compartiments chacun de 4 couchettes. Voilà, c'est la gamme un petit peu intermédiaire.
Donc là, on peut être avec des inconnus.
Tout à fait, on partage son wagon avec des inconnus, mais on n'est que 4.
Oui, mais ça dure 9 jours, d'après ce qu'on a compris.
Alors,
tout
on n'est pas
l'heure.
Obligé, d'aller
jusqu'au bout.
Et la troisième classe, et c'est là que je mets en avant parce que ça s'appelle la Platzkarte. Ça, c'est la troisième classe. Alors, c'est un wagon dortoir avec 54 couchettes sans séparation. C'est vraiment l'auberge de jeunesse, hein, c'est ce que je veux dire. Vous m'avez demandé le tarif tout à l'heure. Ouais. C'est là que, justement, la place la plus proche des toilettes, donc la moins confortable, dans ce wagon dortoir, coûte 100 € pour tout le trajet pour faire 9000 km. Voilà,
ça vous donne une petite idée.
Ça fait pas cher du kilomètre. Voilà. Alors, l'avantage de cette Platzkarte, cette troisième classe, et vous l'avez dit Philippe tout à l'heure, c'est que ça permet vraiment de rencontrer les Russes. Ouais. C'est vraiment le moyen de s'immerger complètement dans cette ambiance du transsibérien. Et en fait, ce que j'ai adoré
Si je peux me permettre,
dites-moi Philippe.
Il faut quand même dire les choses jusqu'au bout. Enfin, vous les dites jusqu'au bout, mais excusez-moi, c'était pas un reproche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on le dit rarement, c'est que rencontrer les Russes, c'est super. Il n'y a qu'un petit problème, c'est que souvent on parle pas russe.
Ouais. Et donc, il y a des astuces pour ça.
Il n'y a pas beaucoup de Russes qui parlent anglais. Et donc, c'est peut-être un peu la difficulté.
On va y venir. Alors, je vais quand même juste raconter comment on s'installe dans ce fameux wagon dortoir. Parce que c'est tout un cérémonial. On ne prend pas sa place comme ça, non. On s'installe, les gens, les Russes s'installent comme s'ils sont chez eux. Ils sont à la maison dans ce train-là.
Ouais, c'est vrai.
Ils se déchaussent, par exemple. Ils mettent des chaussons. Ouais. Donc, prévoyez vos tongs.
J'allais dire, le problème,
c'est effectivement...
Mais c'est vrai, connu des trains où on ne pouvait pas tenir dans la voiture. Il fallait changer.
Il y a du vécu, mais je confirme qu'effectivement, ça peut être parfois très olfactif. Donc, on ne garde pas ses chaussures dans ce fameux train, on se met à l'aise, on fait comme chez soi. Alors, on reçoit bien sûr les draps, les tailles d'oreiller, sa petite serviette de toilette, tout ça c'est fourni. Pas prendre trop de bagages parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour caser ses bagages.
Ouais. Voilà. Alors, et un autre secret, c'est qu'il faut très vite être sympa avec le personnel.
Ah, alors là, vous touchez du doigt l'essentiel d'un voyage dans le transsibérien. Il faut se mettre dans la poche la provonitsa.
Oh, c'est bien dit. Hein.
La provonitsa. Ouais, je prononce à la russe,
magnifique.
C'est quand même génial.
On n'est pas en Italie, hein, on est en Russie.
La provonitsa, c'est la responsable du wagon. Il y en a une par wagon. Pourquoi je dis elle, c'est une hôtesse de wagon? Parce que ce sont des femmes, c'est plutôt des femmes qui tiennent ce métier-là. Une par wagon, et elles ont tout pouvoir sur la gestion de leur wagon. Elles contrôlent votre ticket, votre passeport, elles préparent l'eau chaude pour le samovar, on l'a dit pour le thé. Elles vendent des encas, des friandises, des amuse-gueules, elles vendent des petites bouteilles d'eau. Si vous êtes par exemple, il vous manque une prise pour recharger votre téléphone, eh bien, si vous n'avez pas de place à côté pour trouver une prise, eh ben, si elle pourra vous recharger votre portable dans son compartiment. On peut aussi lui emprunter des ustensiles de cuisine pour faire sa petite popote. Et puis c'est aussi elle qui vous réveille lorsque vous arrivez à destination en pleine nuit. Moralité, il faut vraiment être poli pour s'attirer ses bonnes grâces, sourire de rigueur, même si le visage des provonitsa n'est pas toujours très amène, elles ont un petit côté un petit peu rombière de l'époque soviétique, je dois dire. Alors je vous donne quand même 3 mots de russe essentiels pour vous attirer les bonnes grâces de la provonitsa. Здравствуйте, j'ai essayé, bonjour. Спасибо, qui veut dire merci. Ouais. Et puis, пожалуйста, qui veut dire s'il vous plaît.
Mais avec des notions de russe un petit peu.
Voilà, avec ces 3 mots-là, la provonitsa, elle est dans votre poche.
Ah. Et alors, comment vous faites avec les autres passagers? Parce que, comment vous faites si vous parlez pas
russe? Oui, dans ce fameux wagon dortoir de 54 places, évidemment, alors, il faut un petit guide de conversation, un petit guide Lonely Planet, pour ne pas le citer, ça peut être pas mal. Parce que c'est un cocon, le wagon-lit. C'est un cocon, donc c'est vrai qu'il faut s'immerger. Alors, l'autre astuce, elle est géniale, celle-là. Parce que tout le monde, en fait, on passe son temps à manger, en fait, hein, dans le wagon, et à boire du thé.
Ah oui, c'est vrai qu'on prend 2 kilos par voyage. Hein, on ne l'a pas précisé non plus.
Alors, l'idéal, c'est de partager son repas. Alors, pour nous, occidentales, le mieux, c'est d'apporter du chocolat. Vous allez vous mettre dans votre poche, pas simplement à la Provonica, mais tous les passagers du wagon. Vous ferez des amis pour la vie si vous partagez votre tablette de chocolat. En échange, à chaque arrêt, il y a des vendeurs ambulants. Donc, on peut acheter, souvent, c'est des babouchkas, vous savez, sur le bord des quais, dans chaque gare, fichus sur la tête et la Russie profonde. Hein. Elles vendent un petit peu des encas, des beignets fourrés. Et souvent, c'est du poisson séché. Donc, c'est vrai qu'en plus des odeurs de pieds, vous avez l'odeur de poisson séché.
Et il sent fort.
Donc, on échange un beignet de poisson contre une tablette de chocolat.
Donc il y a une vraie ambiance de convivialité qui est vraie, que moi j'adore, parce que c'est ce qui fait aussi la richesse d'un voyage. Même s'il n'y en a pas un ultra confort dans ce wagon dortoir, en échange on a énormément de convivialité. Alors vous allez me demander, et l'alcool dans tout ça? Alors la fameuse vodka, officiellement c'est interdit de ramener son alcool dans le compartiment dortoir. En revanche, les petits malins, ce qu'ils font, la vodka ils la mettent dans une bouteille d'eau et ça passe. Et puis bon, si vous avez la Provonica dans la poche, elle fermera les yeux si vous avez quelques bouteilles d'alcool.
Voilà. De toute façon, tout ça est avec modération.
Tout ça avec modération, bien entendu. Mais on est quand même en Russie, donc bon, voilà. Bien sûr, il y a de l'ambiance, guitare, jeu de cartes, donc prévoir quand même quelques bonnes bouteilles si vous voulez vous coucher tôt. Mais la vie à bord, ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que vous l'avez dit, Philippe, les paysages, c'est pas forcément dingue, il faut le dire.
C'est exceptionnel.
Vrai.
C'est très monotone.
Je dis, le transsibérien, c'est vraiment pour l'ambiance et ramener quand même un bon bouquin. Voilà.
Et alors, il y a un truc vraiment que j'ai remarqué, c'est que dans le train, parfois il fait nuit noire, et sur la pendule du train, il y a marqué 17h. Alors vous dites, comment ça se fait? Pourquoi la pendule n'est pas à l'heure? Eh bien si, elle est à l'heure. Et vous savez pourquoi?
C'est le fuseau horaire de Moscou.
C'est exactement ça, c'est l'heure de Moscou, parce que tous les trains russes sont à l'heure de Moscou. Et donc, il faut le savoir, si vous prenez le train à Vladivostok, il faut savoir qu'il sera affiché avec l'heure de Moscou. Donc, faire le calcul en permanence.
Cela dit, Philippe, je me suis renseigné hier, j'ai fait une dernière recherche pour être le plus à jour possible. Il paraît que depuis quelques mois, les horaires à l'intérieur du train sont au fuseau horaire local. Oui, tout à fait. Il paraît que
c'est très récent.
C'est récent. Alors, j'ajoute quand même que vos journées ne feront que 23 heures si vous allez vers l'est, parce que vous passerez un fuseau horaire. Et dans le sens inverse, vos journées feront 25 heures. En fait, on perd la notion du temps dans le train. C'est ça qui est génial. Donc vous êtes complètement perdu, comme si vous étiez jet-lagué. Voilà. Ouais. C'est vraiment le même symptôme.
L'étape incontournable pour vous sur le voyage, ce serait quoi?
Incontestablement, le lac Baïkal. Vous descendez à Irkoutsk, et là, vous allez faire un tour le long du lac Baïkal. Le Baïkal, ça fait quand même plus de 2000 km, ça vous donne une petite idée. C'est l'une des plus grandes réserves d'eau douce de la planète. Sur le Baïkal, je conseille d'aller sur l'île d'Olkhon. C'est un bleu paradisiaque. Ben oui, vous savez que j'aime bien le bleu quand même, Philippe. Mais l'île d'Olkhon, vous aurez des petites pensions, vous allez passer 2-3 jours là, c'est le bout du monde. Et en même temps, vous profiterez de toutes les joies du lac Baïkal.
Merci beaucoup Jean-Bernard, on y était. On a envie de reprendre le transsibérien, ça y est. Merci les amis, merci à vous qui nous écoutez d'avoir voyagé avec nous aussi loin aujourd'hui. Demain, on repart, gardez votre valise tout près de vous. On partira au pays des Maasai, du Kilimandjaro, des animaux et de la savane. Nous serons en Tanzanie et en première heure direction le Tarn et sa montagne noire. Merci à tous, à demain.
Et avant demain, Philippe, on le rappelle, on vous retrouve ce soir sur France 5 pour votre émission Des trains pas comme les autres. C'est à 20h50 et vous allez nous faire découvrir aujourd'hui le Panama.
Absolument, le Panama comme on ne l'imagine pas, avec des paresseux, avec une procession incroyable vers le Christ noir. Ce sera effectivement un joli moment, j'espère, pour vous.
Impatiente de voir ça. Des trains pas comme les autres, c'est en partenariat avec Europe 1. C'est ce soir et tout l'été à 20h50 sur France 5.